Eh bien, le dernier coup de la cloche de 19h a sonné. Et comme notre habitude, c'est nous commençons nos manifestations à 19h. Pourquoi on les commence à 19h? C'est pour vous permettre, après, d'aller vers d'autres manifestations, d'autres événements. C'est bien, ce soir, je pense que ça sera soirée caillonning, voilà, des choses comme ça. Bon, et vraiment, je vous remercie toutes et je vous remercie tous d'avoir bravé ces éléments pour venir assister à une conférence de Jocelyn Derbier. Et en tant que président de l'association, et 1, 2, 3, des amis de la maison, de la mémoire, du Royan à Rochechinard, voilà, on vous remercie. Et cette association, eh bien, c'est une vieille dame de 51 ans qui n'a pas cessé depuis 51 ans d'avoir des activités et de proposer chaque été, alors depuis 79, le musée, la maison musée avec ses collections, aujourd'hui c'est plus de 2000 objets qui vous sont présentés, d'avoir eu à un moment donné ce magnifique spectacle qui était le son et lumière au pied du château, qui a dû se terminer sous la... là j'en ai trois en face de moi qui étaient au premier jour. Donc elle s'est... Voilà, oui, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Donc je pense que c'est en 92 la dernière représentation. 91. Voilà, 91, mais je voulais me faire reprendre, c'est pour ça. Voilà, et depuis lors, eh bien, au-delà de ce qui est possible de visiter le musée, l'association propose chaque année des expositions temporaires. Donc cette année, je vous recommande... Non seulement je vous recommande, mais je vous demande d'y aller parce que ça nous fait un peu du bien à notre trésorerie, hein, d'aller voir l'exposition qui est proposée. C'est une très grande artiste qui expose réellement dans le monde entier, qui a un an à la Villa Médicis à Rome, qui a eu 8 mois à la Villa Yamataka à Kyoto et qui nous fait vraiment l'honneur de venir exposer à Saint-Jean-en-Royans, à Rochechinard, veuillez m'excuser. Là, j'ai été troublé par les deux derniers arrivants là, qui sont en train d'arriver. Donc, en fait, l'association, outre les expositions, eh bien, elle vous propose, et toujours gracieusement, ce soir, nous avons une conférence de Jocelyn. Le 8 août, c'est un mardi, nous aurons un atelier écriture. Là, on va déroger à nos horaires habituels. Ça sera 17h30 et ça sera animé par Anne Dacosta. Le vendredi 11 août... Pour les amateurs de blues, marquez-le dans vos tablettes. C'est le grand Master Blues qui nous revient, comme il était venu l'année dernière. Ce sont vraiment des copains de pratiquement 50 ans qui jouent ensemble. Ce sont des fous de blues qui se produisent très régulièrement en Rhône-Alpes et en Méditerranée et qui nous font le plaisir d'être encore là cette année, le 11 août. Le dimanche 20 août, de 8h à 16h, nous aurons notre troisième brocante. Le monsieur qui est rentré tout à l'heure et qui m'a un petit peu fait bafouiller, comme il dit, c'est sans fanfreluche et plastique. C'est une brocante qui demande aux exposants de proposer à la vente des objets en corrélation avec ce que nous proposons dans le musée. Alors, on ne pille pas le musée, hein, je vous rassure. Mais c'est des objets de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1920. Donc ça sera le dimanche 20 août. Alors, moi, je vous dis, venez nombreux parce que c'est toujours très intéressant à voir découvrir ces objets-là. Au-delà de la curiosité, je vous signale que dès 8h, les professionnels de Rhône-Alpes, ils sont là. Hein, et c'est pas que ceux du coin, hein. Voilà. Et puis, nous terminerons les propositions le jeudi 24 août à 19h. Et là, c'est un petit peu particulier. On va rendre hommage, l'association veut rendre hommage à un de ses amis qui est décédé il y a quelques mois, à la veille de ses 100 ans. C'est un monsieur très, très discret qui est venu il y a une trentaine d'années s'installer dans le Royan. Il s'appelle Jean Vignat. C'est un, je vous le dis vraiment, un très grand poète. Il a plus d'une quarantaine d'ouvrages et il a été récompensé par de très très grands prix. C'est un monsieur qui était d'une discrétion totale, qui se baladait juste, c'était dans le regard qu'on voyait que vraiment c'était un observateur de tout. Donc l'hommage sera rendu à travers un film qu'avait tourné en son temps Fabian Dacosta. Le film s'appelle Le promeneur de Saint-Jean et nous ferons aussi derrière des lectures de ses œuvres. Voilà, donc ça sera le 24 août. Alors juste un petit mot pour l'association, bien restez avec nous, monsieur. Voilà. On m'avait dit qu'il y avait des gens qui avaient bon fond. Là, je le vérifie. La chaise a lâché. Voilà. Il suffit de la replacer. Voilà. Donc, l'association, eh bien, on vit, comme beaucoup de, en ce moment, de lieux qui reçoivent du public. On a constaté que le mois de juillet avait, traduit une baisse, mais alors abyssale, des fréquentations. Donc, quand, oui, abyssale, je pense que si, on a ouvert le 11 juillet. Sous ton contrôle, Anne-Marie, on a dû recevoir 30 visiteurs. Anne-Marie, on a dû recevoir 30 visiteurs à peu près depuis l'ouverture. Ouais, bah, voilà. Donc voilà, c'est voilà. Donc, si vous voulez, c'est votre présence, bah, elle nous fait chaud au cœur. Parce que elle prouve qu'on a intérêt à continuer. Vous pouvez aussi nous aider en adhérant et vous pouvez aussi nous aider en achetant les publications que nous proposons à la vente. Bon, j'arrête le côté commercial. on va revenir à la conférence de M. Jocelyn Derbier. Né au pied du château, un bambin dans une poussette, un gamin en short, un adolescent en jean, un adulte en bermuda, a grandi, fasciné par les vieilles pierres du dit château. De cette passion, il en a fait un métier. Depuis plus de 30 ans, Jocelyn, archéologue et historien, aujourd'hui responsable des collections archéologiques du musée savoisien à Chambéry, consacre une part importante de ses recherches à ce site depuis 30 ans, je vous assure. Si son papa, Alain, avait été le chantre, narrant avec truculence des moments d'une saga, moments véridiques ou romancés, Jocelyn lui apporte son travail, sa rigueur et sa réflexion scientifique à déchiffrer l'histoire du site et à décoder les différentes phases de son architecture. Je parle évidemment du château, hein. Avant que de vous laisser face à lui, je tiens, au nom de l'association, à lui dire un grand et véritable merci pour avoir la gentillesse de nous accompagner dans ce travail de mémoire qui est un des objectifs de l'association vieille de 51 ans. Merci Jocelyn. Et maintenant, le château de Rochechinère va se dévoiler à vous. Bonne soirée. Monsieur le premier édile de Rochechinard me rappelle que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous, et l'année dernière il avait fait une conférence, monsieur André Houot, qui est trempé de la tête aux pieds. Voilà. Et monsieur André Houot est l'auteur de la bande dessinée qui est sortie. Ah ben oui, ben bien entendu. Oui, applaudissez-le. Voilà. Qui est l'auteur de la bande dessinée qui raconte un peu à sa façon l'histoire d'un prince ottoman nommé, j'ai oublié, mais le reste, vous le connaissez tous. Donc merci monsieur Houot d'être aussi avec nous encore.
Bon, bonjour. Je vais essayer d'être concis, ce qui peut être difficile sur un sujet auquel j'ai consacré autant de temps, sachant que potentiellement, je pourrais vous tenir jusqu'à demain sans problème. Mais c'est pas l'objectif, je vous rassure. L'objectif pour moi ici, il est multiple. Donc ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, on va dire de manière officielle. Parce que quand j'ai commencé mon mémoire de maîtrise sur les seigneurs de Rochechinard en 93, donc ça fait 30 ans. Voilà. Sauf qu'en fait, Jean-Daniel l'a évoqué, le château m'a toujours attiré depuis l'enfance, donc ça fait très longtemps, ça fait plus de 30 ans que je m'y intéresse. Et puis ça fait pas totalement 30 ans parce que, bah, comme tout le monde, j'ai eu une carrière professionnelle et donc pas la capacité de m'intéresser à ce site en permanence, mais ça a été un fil rouge qui a été toujours très important pour moi. Et actuellement, je suis en train de reprendre les études sur ce dossier. C'est aussi pour ça que je viens en parler, pour faire à la fois, de manière très égoïste, faire un point pour moi, me remettre les choses à plat. Et puis, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas parlé en public, donc l'occasion de rediffuser l'information. Voilà. Donc, on va se partir pour une histoire en trois grandes étapes. D'abord, on va balayer l'histoire de Rosh Hashanah, à partir de l'apparition, la première mention du mot même, et de ses seigneurs. Ensuite, on examinera et on fera une balade virtuelle en photo dans les ruines du château. Et ensuite, je vous présenterai ce qui sont mes hypothèses que j'ai publiées jusqu'à présent sur l'interprétation de la manière dont ce bâtiment a évolué dans le temps. Donc, on va essayer de parcourir ce chemin ensemble. Diapo suivante. Donc, sur les premières mentions, la première fois où le mot Rosh Hashanah apparaît dans un texte, c'est en 1174, alors c'est pas le texte qui est là malheureusement, celui-là est un petit peu plus récent, il date de 1275, donc 100 ans après. En fait, le texte de 1174, on n'en conserve pas de copie originale, on n'en conserve que des copies postérieures. Mais c'est le premier texte qui est dans les chartes de l'abbaye de Léoncelles, la charte 24, et c'est une donation à l'abbaye de Léoncelles de droit sur la montagne de Musan, par le seigneur du royaume de l'époque qui s'appelle Guy de Lain. Je l'évoquerai à nouveau. Et dans cette donation, dans les témoins de cette donation, il y a un certain Guillaume de Rochechinard, Wilhelmus des Rochechinard, Wilhelmus des Roupechinard. Et c'est là que le mot apparaît. Mais on ne peut pas en dire bien plus. En fait, ça ne nous dit pas qu'il y a un château. Ça nous dit juste qu'il y a une localité qui s'appelle comme ça et qu'il y a quelqu'un qui en porte le nom. C'est vraisemblablement un petit chevalier. Et le seigneur du secteur, de toute façon, c'est clair, c'est Guy de Lain de Royan, celui qui fait le don de la montagne de Musan, puisque voilà, Musan, c'est une partie de Rosh Hashanah. Et il faut attendre, en fait, l'année 1275 pour avoir la première mention certaine du château. C'est-à-dire qu'on a des textes, des traces antérieures de la mention d'un castrum, d'un château à Rosh Hashanah, mais c'est tout des copies. Le premier acte officiel qui est conservé, original, c'est celui qui est le bas est en photo ici, alors il est très peu lisible, mais la mention est particulière, donc c'est encore une tractation avec l'abbaye de Léoncelles, c'est encore dans les chartes de l'abbaye de Léoncelles, donc on est en 1275, et là c'est plus Guy de Lain, c'est son descendant qui s'appelle Arnaud Guélin, qui est dominus des Roupechinardi, donc il est seigneur de Rosh Hashanah. Cet acte, ça concerne encore les droits sur la montagne de Musan. Et l'acte est fait dans la maison du Seigneur. On ne dit pas château, on dit maison, domus. Et dans les témoins qui sont présents, il y a un témoin qui est mentionné comme capellanus, donc chapelain, dicticastri, chapelain du dit château. Donc c'est là qu'on a la première vraie mention sérieuse et fiable. Alors, petit détail étymologique. Rosh Hashanah, le nom ne vient pas de la roche chinée, en rapport au marbre, par exemple, et aux pierres marbrières trouvées sur la commune, pour une bonne et très simple raison, c'est que le mot chinée apparaît au XVIIe siècle. Or, je vous ai mentionné juste avant que la première mention de Rosh Hashanah, c'est au XIIe siècle. Ensuite, autre point, qu'est-ce que c'est ce nom ? Ben, c'est une formation qui est en fait assez classique, notamment dans le sud de la France, où on a le nom d'une roche, alors ça peut être roche en toutes lettres, comme encore aujourd'hui dans le nom de la commune, mais ça peut être roc en Provence, roca. Ce nom de cette roche est suivi très souvent d'un nom d'un personnage. Donc potentiellement, on a affaire à la roche à Monsieur Chinard. C'est une des hypothèses. On a plein d'exemples de sites de ce type-là, de sites Castro qui s'appellent comme ça. Et c'est très intéressant parce que ça nous donne un premier indice, c'est que les lieux qui commencent à s'appeler la roche à quelqu'un, c'est c'est des sites qui naissent au 11e, 12e siècle. Voilà. Mais je ne peux pas en dire vraiment plus. On va passer à la diapositive suivante. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que je vous ai dit que la première mention, c'est dans un acte d'un seigneur du Royan. C'est qui ces seigneurs du Royan? C'est des seigneurs qui sont d'une famille très prestigieuse, qui est totalement méconnue et très difficile à étudier parce qu'il y a très peu de documentation, parce qu'elle s'est éteinte dans le courant du XIIIe siècle. Mais tout commence, entre autres, avec un certain personnage appelé Ismidon, qui est mentionné avec le titre de Princeps, et son territoire s'appelle une Principatus. Alors j'emploie des mots latins, mais parce qu'en fait, si on les traduit vite en français, on va avoir une réalité qui est totalement faussée. Princeps, c'est ce qui donne le mot prince. Principatus, c'est ce qui donne le mot principauté. Mais quand je vous dis prince et principauté, l'image qu'on va avoir, c'est Monaco. Donc rien à voir, bien évidemment. Ce qui est intéressant par contre, c'est que on a affaire à quelqu'un qui est important, qui construit sa domination seigneuriale à la charnière de 4 évêchés, l'évêché de Vienne de l'autre côté de l'Isère, l'évêché de Grenoble de l'autre côté de la Bourne, l'évêché de Die de l'autre côté de la Lyonne et l'évêché de Valence de ce côté-ci. Et en 1040, il fait don à l'abbaye de Montmajour près d'Arles du droit d'acquérir sur l'ensemble de la propriété de sa Principatus. Et c'est l'acte que vous avez en photo ici, qui est la charte originale copiée dans le cartulaire de Grenoble au XIe siècle. Et on a, si vous voyez ici, vous arrivez à lire, Carta des Royano, la charte du Royan. Et c'est la première mention du mot Royan pour le coup. On va passer à la diapositive suivante. Ça, c'est lié à une autre étude que j'ai faite de l'implantation de l'abbaye de Montmajour dans la région. Comme je vous l'ai dit juste avant, Montmajour a le droit d'acquérir dans la région parce que le prince du Royan donne l'autorisation. Et ça, c'est la carte de tous les prieurés dépendants de Montmajour dans le courant du XIIIe siècle. C'est très intéressant parce que, en fait, cette carte, elle nous donne en négatif potentiellement ce qu'était le Royan du XIe siècle et la Principatus. Donc un territoire qui ne se limite pas à ce qu'on considère comme le Royan aujourd'hui, pour faire court, le canton de Saint-Jean dans la Drôme, le canton de Pont-en-Royan en Isère, mais s'étendait aussi de l'autre côté de l'Isère. Et puis, pour revenir sur les seigneurs du Royan et leur importance et leur niveau de puissance, ils étaient entre autres seigneurs de Perrin, et dans ce cadre-là, la famille des Guigues d'Albon, les futurs dauphins, leur prête hommage, donc sont leurs inférieurs. Diapositive suivante. Donc, une généalogie simplifiée du lignage seigneur royal depuis Ismidon. On va arriver dans le courant du XIIIe siècle avec deux personnages importants. Alors, premier personnage important, on a Guy de Lindroyant, donc, qui est apparenté à la famille d'Ismidon, mais dans un lien qui n'est pas très clair, d'où les pointillés. Et si on prend aussi pour l'importance de cette famille, les familles qui en descendent, dans la parenté des descendants d'Ismidon, il y a les Adhémar de Montélimar, puisque Lambert-François de Royan a comme demi-frère Guillaume Hugues, souche des Adhémar de Montélimar, qui donne le nom de la ville, mais aussi Adhémar de Monteil, légat pontifical de la première croisade. Donc là encore, on est dans un très haut niveau social. Pareil, Lambert-François, son beau-frère, c'est le pape Calixte II. Bref. Ensuite, dans la lignée principale, va aboutir à Guidelin, qui se marie à une certaine Flotte. Il y a une certitude avec ce prénom-là, et puis et les prénoms de ses descendants, notamment Arnaud, Ossassica, qui est un prénom extrêmement rare. En fait, cette Flotte, elle vient de la Roche des Arnauds, dans les Hautes-Alpes. Et elle fait partie à la famille des Arnauds, à qui appartenait ce site dans les Hautes-Alpes, mais aussi un site plus connu, qui s'appelle Cré-Arnaud, à Cré, dans la Drôme, aujourd'hui. Et dans la descendance directe, il y a Flotte de Royan, qui est une dame très importante du XIIIe siècle, puisque par ses deux mariages, elle va avoir dans sa descendance tous les comtes de Valentinois et les Poitiers, jusqu'à Diane de Poitiers, entre autres, dans les derniers descendants, connus et très connus. Et par ses mariages avec Aymon de Faucigny, sa descendance, c'est les comtes de Savoie et les Dauphins. Et l'autre branche, bah, c'est celle des seigneurs de Rochechinard qui nous occupe ici. Et en fait, Arnaud Guélin, au milieu du XIIIe siècle, va céder, a priori à des problèmes de finances, et cède au dauphin sa propriété de sa terre de Rochechinard. Alors il la cède en viager, enfin une forme de viager, qui n'est pas forcément une très bonne affaire pour le dauphin, puisqu'il va mettre 40 ans à mourir. il meurt vers 1290. Mais en fait, ça correspond à un moment où justement les dauphins commencent à s'installer dans la basse vallée de l'Isère et appuient leur pression, puisque 1250, achat de la terre de Rochechinard, 1251, achat de Beauvoir-en-Royans, et juste avant, un gros conflit avec les comtes de Valentinois pour Saint-Nazaire. On va passer à la diapositive suivante. Donc, en 1290, alors oui, juste celle-là encore, toujours sur les seigneurs du Royan et la branche des seigneurs de Rochechinard du XIIIe siècle. Donc un autre acte issu des chartes de Léoncel. Et puis des armoiries sur votre droite qui sont celles en haut de Flotte de Royan et en bas d'Arnaud Guélin, seigneur de Rochechinard. Donc on voit qu'ils sont bien apparentés, notamment par les fleurs de lys. Par contre, ces armoiries ne sont connues que par des sceaux. Du coup, je ne peux pas vous en donner les couleurs. On a que la forme de conserver. Et là encore, ils sont connus par des sceaux appendus à des chartes de l'abbaye de Léoncel. Diapositive suivante. Donc, 1290, les dauphins deviennent maîtres de la terre de Rochechinard. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une période un peu de flou où se met en place le pouvoir delphinal dans le secteur et où on va voir apparaître quelque chose. Quand ils achètent bien un château, un castrum. Un castrum, un château, ça a comme circonscription administrative un mandement. Les premières mentions à partir des dauphins, on parle du mandement de Saint-Nazaire et Rochechinard, parce que les deux sont rattachés. Et puis il se passe quelque chose de particulier en 1318. En 1318, les dauphins donnent non pas la terre de Rochechinard, mais la domus fortis, la maison forte de Rochechinard, et une rente de 10 livres à un certain Girin Curté, qui est un écuyer de Guy Dauphin, un des frères du Dauphin Jean II, dont vous avez le sceau sur la gauche. Donc, c'est un petit détail, on va dire, technique et juridique, mais quand Girin Curté devient le maître de la maison forte de Rochechinard, il est seigneur, mais il est seigneur qu'avec des droits de basse justice. Et notamment, il n'a pas la haute justice, qui est entre autres très symbolique, puisque c'est le pouvoir de donner la mort pour un seigneur. Donc les dauphins la gardent. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand ce qui est donné à Girin Curté, c'est appelé une maison forte et pas un château, parce qu'il n'y a plus la haute justice. Là, c'est ce que vous avez sur la droite, c'est la copie du texte. Vous pouvez voir marqué, pour ceux qui sont devant, Rupis Finardi au-dessus. C'est la copie du texte de 1318. Diapositive suivante. Alors, Girin Curté va garder relativement peu de temps cette propriété. Il a vraisemblablement assez vite, lui aussi, des soucis de ressources. Et il va vendre sa terre, sa maison forte avec les 10 livres de rente à un certain Aymar Allemand de Beauvoir-en-Royans. Et là commence une histoire tout à fait autre avec les Allemands de Beauvoir. Donc les Allemands, c'est une grande famille dauphinoise, gigantesque. J'ai fait mon travail de préparation de thèse, jamais fini, dessus. J'ai recensé plus de 300 individus entre le XIe et le XVIe siècle. La particularité de la branche de Beauvoir, c'est une branche très modeste. qui se développe à Beauvoir-en-Royans à partir du XIIIe siècle et qui va exploser avec Aymar Ier allemand, qui a une particularité importante, c'est que sa maman, Guillemette, c'est la nourrice du dauphin Humbert II. Donc il est le frère de lait du dauphin. Donc là vous avez le sceau d'Humbert II sur la gauche. À droite, les armoiries reconstituées des Allemands de Beauvoir, futur seigneur de Rochechinard. Et ce qui est très intéressant, sans rentrer dans les détails, c'est qu'à Beauvoir, cette famille a un rôle de proximité avec les dauphins. Là, vous avez un dessin qui date de la fin du XVIe siècle, lors du siège de Beauvoir pendant les guerres de religion, où on reconnaît bien les fortifications. Si vous connaissez le site, vous avez le couvent des Carmes ici, la tour de ce qui reste de l'église. Donc, dans le cercle de gauche, vous avez le château Delphinal. Et dans le cercle de droite, vous avez la maison forte des Allemands à Beauvoir. Donc, c'est beaucoup plus petit, forcément. Mais ils ont une place importante dans le bourg. Et Aymar Allemand, c'est quelqu'un qui va faire une énorme carrière comme châtelain. C'est-à-dire, alors châtelain, c'est pas propriétaire d'un château. Châtelain, c'est officier seigneurial. C'est le responsable qui gère un mandement, en l'occurrence pour le dauphin. Et il va avoir des postes de confiance, puisque en ce milieu de seconde moitié de XIVe siècle, le Dauphiné est en guerre permanente avec la Savoie, notamment parce que les propriétés dauphinoises et savoyardes sont complètement interpénétrées. Il faut savoir par exemple qu'à ce moment-là, Voiron est savoyard, alors que le Faucigny et le Beaufortin sont dauphinois. Et pour le coup, Aymar Allemand va être châtelain pendant plus de 10 ans à Beaufort et à Bonneville. Et ensuite, il va avoir comme poste la châtellenie de Visil, qui est une châtellenie très riche. C'est dans ces choses-là qui vont lui permettre d'acquérir Rochechinard et surtout de faire une très bonne affaire d'un point de vue prestige en 1367. Quelques années auparavant, il a acheté d'une famille qui s'appelle les Archignaux une maison forte, la bâtie Archignaux, qui est sur la commune de la Motte-Fanjas, et une part de la co-seigneurie de Saint-Nazaire-en-Royans. Et cette part de co-seigneurie, il a la haute justice. Et en 1367, il va faire un échange avec le dauphin, qui à l'époque est le roi de France, enfin le fils aîné du roi de France, puisque le dauphiné entre-temps est devenu français. Et en 1367, ce qui se passe, c'est que Aymar cède ses droits sur Saint-Nazaire au dauphin, ce qui l'intéresse énormément. Puisqu'en fait, à Saint-Nazaire, à l'époque, il y a 3 co-seigneurs. Le comte de Valentinois, avec son château qui domine le pont sur la Bourne, le château Poitevin. Le dauphin, avec son propre château, qui est le château Delphinal, au-dessus du bourg de Saint-Nazaire. Et un troisième petit co-seigneur, qui était les Archignaux, qui avaient, eux, une maison forte à la Motte-Fanjas. Et donc, quand les Allemands cèdent leurs droits sur Saint-Nazaire, le dauphin, qui est possédé un tiers des ressources de la seigneurie, se retrouve avec les 2/3 et donc domine le comte de Valentinois. Donc c'est une bonne affaire pour le dauphin. Et en contrepartie, le dauphin accepte que la seigneurie de Rochechinard redevienne une seigneurie avec la haute justice. Et cet acte est très important parce que à ce moment-là, le mandement de Rochechinard ressort du mandement de Saint-Nazaire, devient à nouveau un mandement indépendant, limité à la paroisse de Rochechinard, dont on fixe les limites. C'est les limites actuelles de la commune. Elles sont décrites en 1367. Et autre détail sur 1367 qui est très intéressant par rapport au lieu où on se trouve, c'est que comme c'est des nouvelles limites et une nouvelle limite de juridiction et que c'est important, on les proclame publiquement. Et Rochechinard, la particularité, encore aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de bourg et il n'y a jamais eu de bourg. C'est que des hameaux. Donc le centre villageois, ça a toujours été ici, entre l'église et la maison du prêtre. Et c'est ce que dit l'acte de 1367. Il est proclamé entre l'église et la maison curiale. Donc on avait déjà cette disposition-là. Alors je ne dis pas que le bâtiment du musée est du XIVe siècle, pas plus que l'église est entièrement du XIVe siècle. Je vous dis juste qu'il y avait 2 bâtiments dans ce secteur-là, dans la même disposition à cette époque-là. Diapositive suivante. Alors les Allemands, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une famille qui est très importante et qui se développe et qui va avoir deux moments importants. Alors on va revenir dessus juste après, mais il y a un facteur très important, c'est pour ça que je vous le montre avec l'arbre généalogique. C'est que Aymar II, c'est Nordor Schinar, dans les années 1420-1480, a la particularité d'avoir eu 12 enfants survivants, tous à l'âge adulte, majoritairement des garçons. Et donc, à partir de la succession de ce seigneur, de la fin du XVe siècle, j'y reviendrai, la famille part en quenouille parce qu'il y a trop d'héritiers, il y a trop de parts, ça baisse les revenus, ils sont en querelle et en procès en permanence entre eux. Il y a des procès entre les descendants jusqu'au XVIIIe siècle, suite à des droits de la fin du XVe siècle. Mais il se passe quelque chose d'important au milieu du XVe siècle, diapositive suivante. Donc, l'événement important, il a lieu à Grenoble, le 1er mai 1455. L'évêque de Grenoble, qui s'appelle Cibou Allemand, qui est d'une autre branche de la famille, réunit tous ceux qui s'appellent Allemands en Dauphiné. Et donc, il réunit 26 seigneurs, dont plusieurs membres de la famille de Rochechinard. Le document que vous avez à gauche, c'est la signature du pacte de famille des Allemands qui les rassemble en 1455. Ils décident dans ce pacte toute une série de clauses communes, notamment se réunir une fois par an, décider ensemble du mariage de leur fille, porter le noir lors du deuil de l'un de leurs membres, porter assistance en cas de guerre privée alors qu'elles sont interdites au reste de la famille, etc. Et surtout, et c'est là que c'est important pour l'histoire du château, vous comprendrez mieux après, par cet acte du 1er mai 1455, les Allemands décident deux choses. Ils adoptent des emblèmes communes. Ces emblèmes, elles sont doubles. Il y a d'abord une emblème héraldique qui est d'adopter les armoiries de la famille allemande de Valbonnet, qui sont de gueules semées de lys d'or à la bande d'argent. Donc c'est ce que vous avez ici. Et ils choisissent ça d'une manière très simple, c'est que les Valbonnet, ça a été une branche très prestigieuse, mais elle est éteinte. Donc on choisit de donner comme emblème commune quelque chose où on favorise personne. Et l'acte précise que si on peut adopter les armoiries pleines ou éventuellement faire ce qu'on appelle les écartelés avec ses propres armoiries. Et c'est exactement ce que font les Allemands de Rochechinard de manière régulière. Donc, ils les écartèlent avec cette armoirie qui se lie d'azur au chef d'argent, au lion armé, langué et couronné, au lion de gueule armé, langué et couronné d'or. Donc ça, quand on voit ce croisement d'armoiries, on sait qu'on est après 1455 de manière certaine. On a un document qui nous le précise. Deuxième point, ils adoptent comme autre emblème quelque chose qui est moins connu en héraldique, ce qu'on appelle un badge. Alors le badge, vous en connaissez forcément un qui est ultra célèbre, c'est celui de François Ier, c'est la salamandre. Les Allemands choisissent un autre badge, ils choisissent le bâton écoté. Donc une branche dont on a coupé les départs. C'est ce que vous avez sur la signature du pacte, ici. Et le bâton écoté, c'est ce que vous avez à quelques dizaines de mètres d'ici, à la porte d'entrée du musée. Donc on a vraiment l'adoption de tout un ensemble de symboles que la famille va utiliser de manière très très forte. Diapositive suivante. Donc je fais une aparté parce qu'ils ont un impact direct sur l'histoire du château potentiellement, sur deux personnages qui sont présents lors du pacte de 1455, qui sont vraisemblablement à l'époque que de jeunes hommes, deux frères, Antoine et Charles, qui sont les frères d'Aymar II, celui qui a eu 12 enfants. Donc ils ont de très nombreux neveux, ces deux personnages. Et Antoine et Charles ont fait tous les deux deux carrières très importantes. Alors, je pourrais tenir plus d'une heure dessus sans problème, donc je vais faire court. Antoine Allemand, il a commencé sa carrière chez les Antonins, dans l'ordre de Saint-Antoine. Et il a été dans les petits papiers du roi Louis XI, ce qui fait qu'il a été nommé ambassadeur du roi auprès de la curie romaine, donc l'ambassadeur du roi de France auprès du pape. Et suite à plusieurs missions diplomatiques de ce type-là, il a été nommé évêque de Cahors à partir de 1465, ce qu'il est resté avec une petite lacune jusqu'à sa mort en 1493. Et bon, là, vous avez un portrait d'Antoine Allemand qui est totalement faux. C'est issu d'une série de portraits des évêques de Cahors qui sont conservés actuellement dans la sacristie de la cathédrale de Cahors et qui ont été faits au XIXe siècle en se basant sur rien du tout. Donc, je vous l'ai mis sur le principe, mais voilà. Par contre, ce que vous avez à côté, c'est les armoiries d'Antoine Allemand provenant d'une chapelle qu'il a fait construire dans la cathédrale. Donc, vous reconnaissez ce que je vous ai montré juste avant. Donc, personnage très important, Antoine Allemand. Deuxième personnage très important, Charles Allemand. Donc, lui, il fait une tout à fait autre carrière. Il fait une carrière chez les chevaliers hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, d'où la croix qu'il porte sur son manteau, qu'on appelle vulgairement croix de Malte. Mais pour information, lui, il n'est pas dans l'ordre de Malte. L'ordre de Malte, c'est après 1522, après que les chevaliers aient quitté Rhodes. Donc, à cette époque-là, on les appelle chevaliers de Rhodes, ou leur vrai nom d'origine, c'est chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et pareil, vous avez un exemplaire des armoiries de Charles Allemand, issu d'un manuscrit enluminé qui est conservé à Londres, le Codex Rhodensis de la Rochechinard, et vous voyez qu'il a les mêmes armoiries, et il a lui rajouté en chef, non pas les armoiries de Savoie, mais les armoiries de l'ordre des hospitaliers. Et petit détail pratique et intéressant, donc c'est une représentation. La figuration, par contre, qui est à côté, c'est une vraie figuration de Charles Allemand qui date de la fin du XVe siècle, qui a été représentée sur un terrier quand il était commandeur de. Enfin, qu'il avait dans ses biens la commanderie de Vaour dans le Tarn. Donc c'est conservé dans les archives de Haute-Garonne. Et petit détail, c'est le seul membre de cette famille dont on est une sorte de portrait, entre guillemets, et on sait qu'il était blond. Voilà. Et Charles Allemand, il est surtout connu pour l'épisode majeur de l'histoire de Rochechinard. En général, quand on parle de Rochechinard, on parle que d'une seule chose, c'est le passage du prince Zizim. Et en fait, si Zizim va passer à Rochechinard, c'est à cause de Charles Allemand, parce qu'en fait, il était lui aussi, non pas dans les petits papiers du roi Louis XI, mais dans les petits papiers de Pierre d'Aubusson, le grand maître de l'ordre de l'époque, et il a eu plusieurs postes de responsabilité importantes. Il a notamment eu un poste très important, il a été capitaine du château Saint-Pierre. Je vais vous en reparler. Le château Saint-Pierre, actuellement, ça se trouve dans la ville de Bodrum, en Turquie. Et la particularité du château Saint-Pierre, c'est que c'est un château qui est sur le continent, et c'était donc un poste avancé des hospitaliers. Le capitaine du château Saint-Pierre, on nomme pas n'importe qui, c'est là encore un poste de confiance. Et sachant que, détail très important, c'est par le château Saint-Pierre que toute la diplomatie se passe avec les Turcs. Et c'est au château Saint-Pierre que le prince Zizim vient demander asile aux hospitaliers. Et c'est en partie sous la garde de Charles Allemand, mais d'autres personnes, qui va ensuite venir en Europe. Donc, et il va être hébergé. Alors, dans un premier temps, ils vont débarquer à Nice, remonter côté piémontais, traverser les Alpes au Mont-Cenis, passer Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, rester quelques temps dans la région de Chambéry, alors peut-être à Rumilly, peut-être aux Seychelles, c'est pas très clair. Ensuite, venir un peu en catastrophe, descendre la vallée de l'Isère, descendre le Rhône, descendre jusqu'au Poix de Laval dans la Drôme, qui est une des commanderies de Charles Allemand. Et à l'annonce de la mort du roi Louis XI, il se passe un événement important. Le pays est dans une situation de crise. Et pour simplifier les choses, les hospitaliers se débarrassent de l'escorte turque du prince et l'exilent à un endroit où ils peuvent mieux le contrôler, à savoir ici, à Rochechinard. Donc en fait, il vient s'installer quelques mois ici, il faut ensemble en 2 mois, pendant l'hiver 1483-1484. Et puis Charles Allemand continuera de faire une très belle carrière chez les hospitaliers, puisqu'il finira comme grand prieur de Saint-Gilles, le grand prieur de la langue de Provence. Le grand prieur de Saint-Gilles, c'est le second du grand maître, c'est le financier de l'ordre. Diapositive suivante. Alors, le descendant direct d'Aymar II, le frère aîné de la fratrie de 12, c'est Barachin, donc celui qui a accueilli le prince Izim. Barachin, il ne se marie pas. Il n'a pas d'héritier légitime. Alors, il a eu une bâtarde, ce qu'on sait par son testament, dont vous avez une copie sur la gauche. Et il meurt, Barachin, au début de l'année 1495, au tout début des guerres d'Italie, en fait à peu près à la même date que Zizim d'ailleurs. Il a fait partie de l'armée de secours envoyée pour aider Charles VIII, qui serait piégé à Naples. Et du coup, cette armée de secours est allée assiéger Milan et notamment Novare. Et cette armée de secours s'est retrouvée piégée et elle-même encerclée dans Novare. Et il est mort à Novare en 1495. Donc après, je vous l'ai déjà dit, c'est la catastrophe. Les héritiers s'entre-déchirent. Et il faut attendre l'année 1547, donc 16e siècle, pour que Gabriel Allemand, seigneur de Dampézieux, c'est vers Bourgoin-Jallieu. Alors, c'est un joli petit château où il y a aussi des bâtons écotés aux fenêtres. Gabriel Allemand vend son château de Rochinard à un parvenu, Claude Monnier, qui est un roturier, qui est un Lyonnais, et qui a fait fortune dans le commerce et le change monétaire, et notamment en réussissant par ce biais-là à acquérir des charges de maître de la monnaie, donc le fait de pouvoir battre et fabriquer la monnaie. Au moment où il achète Rochechénard, Claude Monnier est maître de la monnaie de Romans. Il sera par la suite quelque temps mais de la monnaie de Lyon, alors qu'il est déjà seigneur de Rochechénard. La particularité, c'est que vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un roturier peut acheter une terre noble? En fait, en Dauphiné, c'était possible. Un roturier pouvait tout à fait acheter une terre noble. Il la payait juste plus cher. En fait, les taxes dessus étaient beaucoup plus élevées. Par contre, la particularité, c'est que le fait d'acquérir une terre noble rendait de facto le personnage noble, avec les privilèges afférents. Donc voilà une généalogie des Monniers. On ne va pas rentrer dans le détail. Juste sur certains aspects. Alors, il y a un truc qui est très intéressant. C'est que, vous allez me dire, mais ces armoiries, on les a déjà vues quelque part. Celle des Allemands avant 1455. Alors, pas tout à fait. En fait, vraisemblablement, les Monniers étant des roturiers, ils n'avaient pas d'armoirie. Donc, ils ont plus ou moins acheté des armoiries avec la seigneurie. Et ce n'est pas exactement celle des Allemands. En fait, il y a ce qu'on appelle une brisure. Il y a une différence dans ces armoiries. La différence, elle est la suivante. C'est que les armoiries des Monniers, on en connaît deux types, celle du haut et celle du bas, qui a une différence microscopique, vous allez comprendre et peut-être sourire. La particularité, c'est que ici, le lion est sur un fond blanc avec un chef, donc une bande en haut bleue, donc d'argent au chef de gueule, d'azur. Chez les Allemands, c'est l'inverse. C'est d'azur au chef d'argent. Donc, il y a une légère modification, mais on reste dans la filiation. Et pareil, on a quelque chose qui marque leur roture chez les Monniers. Dans certains cas, on a la mention du fait que le lion des armoiries, c'est ce qui est dans la partie du bas. La petite différence, c'est qu'en plus d'être armé, langué et couronné d'or, donc avec la langue, les griffes et la couronne de couleur dorée, il est aussi vilainé d'or, c'est-à-dire que son sexe est doré. Et ça, c'est un signe de roture. La particularité, c'est que les Monniers vont très rapidement gommer leur origine roturière et vont plus s'appeler Monniers, ils vont s'appeler de Rochechénard, tout simplement. Et vont conserver ce château pendant tout le second moitié du XVIe et tout le XVIIe siècle. Diapositive suivante. Alors, un épisode important sont les guerres de religion. Pour le coup, à Roche-Chinard, il se passe quelque chose de particulier qui est très important pour la famille Monnier et pour l'histoire du site aussi. C'est que le secteur du Royan va être véritablement ensanglanté de manière fratricide par les guerres de religion. Pont et Saint-Nazaire vont être pris et repris des dizaines de fois. On a affaire à des descentes de bandes protestantes qui arrivent du Diois par le pas de l'Allier de manière régulière. Bref, c'est une période vraiment, vraiment pas drôle. Et la particularité, c'est que pendant toute cette période, Claude Monnier va tenir son château de Roche-Chinard comme une place forte catholique et qui va le rester durant toute la période. Et il va s'acharner à le faire, et on a des documents pour nous le prouver. On a plus d'une cinquantaine de lettres de conservées, qui est toute la correspondance qu'il a entretenue avec le gouverneur du Dauphiné et le lieutenant général du Dauphiné pour avoir de l'argent pour tenir sa garnison, pour tenir son château. Sachant que la garnison, globalement, elle oscille, dans la majeure partie des cas, entre 3 et 12 hommes. Elle monte une fois à 40. Les lettres racontent aussi que le château a connu une fois une attaque surprise de nuit avec la pose d'un pétard contre la porte. Donc c'est un explosif qu'on vient mettre, c'est une cloche en céramique remplie de poudre qu'on a fixée contre la porte pour attaquer par surprise, mais que les assaillants ont été repoussés. Et pareil, les lettres mentionnent aussi que les fils de Claude Monnier mènent des opérations de guérilla contre les Huguenots dans le Royaume. Et la particularité importante, c'est que à l'issue de cette période, qui s'arrête avec l'édit de Nantes, toutes les places fortes du Royan vont être démantelées, notamment sous Richelieu. Tous les châteaux vont connaître des démolitions, sauf Roche-Chinard, parce que le Seigneur était resté fidèle au roi dans toute la durée des guerres de religion. Ce que vous avez sur la gauche, c'est une carte de Jean de Bains qui date de la charnière 16e-17e siècle et qui est la première figuration connue de Roche-Chinard. Alors, de manière assez symbolique, hein, on voit une construction sur un rocher. Cette carte est particulière puisque le nord est en bas. Donc vous avez la courbe de l'Isère, Saint-Nazaire, Saint-Thomas, La Motte, Austin, etc. Donc c'est vraiment à l'envers. Hein. Autre détail important pendant les guerres de religion, vous avez le document qui est à droite. Ça c'est des tractations, là aussi pour l'histoire de la garnison, avec la communauté de Bouvante, qui était censée aider financièrement à l'entretien de la garnison, et les habitants de Bouvante considéraient que ça ne les protégeait pas du tout que de payer la défense de Roche-Chinard. Vu l'éloignement, c'est assez logique. Donc il y a toute une série de tractations. C'est intéressant pour deux choses, ce document, c'est qu'il y a la signature de Claude Monnier en bas, Roche-Chinard, et de son beau-frère, Guérin. Et ça, c'est un personnage très important aussi localement. Je ne développerai pas dessus. C'est le beau-frère de Claude Monnier, c'est le juge Guérin de Romans, celui qui a réprimé le carnaval sanglant de 1580, et dont les descendants sont les Guérin de Tansin, qui ont donné notamment la famille maternelle de D'Alembert. Diapositive suivante. Alors, le XVIIe siècle, on a beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de documentation descriptive du château qui existe pour cette époque-là. Pour plusieurs raisons, alors c'est surtout la seconde moitié du XVIIe, c'est qu'il y a plusieurs des membres de la famille qui décèdent sans héritier, donc il y a des inventaires au moment du décès qui décrivent précisément les biens. On a aussi des séries de campagnes de construction ou de restauration du bâtiment dans les années 1690 qui sont documentés par de la documentation écrite, qui nous décrivent notamment, il y a des expertises menées par des maçons et des charpentiers et qui décrivent pièce par pièce les bâtiments du château. Et puis là à droite, je vous ai mis le dernier document qui atteste la dernière campagne d'entretien sur le bâtiment. C'est vraiment à la fin du XVIIe siècle, puisque c'est en 1699. Ce document, c'est la réfection générale de toutes les toitures. Il est précisé le nombre de tuiles employées pour la réfection. Il est précisé qu'on a utilisé du mortier pour refaire les parties voûtées qui sont couvertes de lauzes scellées au mortier et non pas d'une toiture. Et il est même précisé le prix et la longueur de la corde qui a servi au charpentier à se tenir sur les toitures. Diapositive suivante. Alors, mais pour les Monniers, on se retrouve avec un peu la même situation qu'avec les Allemands. Alphonse Monnier, capitaine de cavalerie, meurt pendant les guerres de Louis XIV en 1690 en Alsace et laisse sa veuve dans une situation financière apocalyptique. Tellement apocalyptique qu'elle va épouser un juriste pour arriver à gérer la situation. Et pour vous donner une idée du niveau de violence juridique auquel elle était soumise, cette Madeleine Duvivier, la dernière dame de Rochechinard, la famille Monnier, sa propre mère lui a fait un procès pour récupérer l'argent qu'elle avait prêté à son gendre pour partir à la guerre. La particularité, c'est que à partir de là, début 18e, la première moitié du 18e, en fait, c'est pas très clair ce qui se passe à Rochechinard. J'arrive pas à trouver les bons documents. Vraisemblablement, le château change plusieurs fois de propriétaire très vite. Il passe notamment au Pourroy en 1709. Là, vous avez à gauche un très intéressant inventaire de toutes les archives du château à cette époque-là. Mais on n'a pas les papiers qui vont avec, c'est qu'une liste. Et puis, à partir de 1742... c'est la famille Dubarral qui achète la terre de Rochechinard. Mais là, on rentre dans autre chose. Les Dubarral, c'est avant tout des hommes d'affaires et qui gèrent leur seigneurie pour le titre et les revenus. Donc, ils sont très contents de s'appeler de Rochechinard parce que ça claque. Mais globalement, ils viennent pas sur place et ils s'occupent pas du bâtiment. Ils nomment des fermiers qui gèrent les terres et ils tirent les revenus des terres. Du coup, sur la carte de Cassini, dont vous avez la feuille à droite, le château de Rochechinard est figuré comme en ruine. Et cette feuille, la levée de terrain a été faite entre 1768 et 1769. Donc on sait qu'à cette date-là, le château est déjà en ruine. Juste un petit détail, vous avez les armoiries des Barral juste à côté, avec celle du dessous. Alors je me souviens plus du prénom du. Voilà, on va regarder la note. C'est le baron André Horace François de Barral de Rochechinard, qui a été un personnage important puisque il a eu la particularité d'être général de l'armée royale et général de l'armée révolutionnaire et général d'Empire. Et il a fini sa carrière comme préfet du Cher. Donc c'est un des derniers personnages à vraiment porter le titre, sachant que de toute façon, à partir de la Révolution, la seigneurie disparaît et c'est juste la terre qui va rester et passer de main en main au fil des siècles. Donc j'ai fini cet historique. Alors on pourrait rajouter le dernier détail hein, qui est l'acquisition en début des années 2000 par Louis Arquet du château pour le projet de restauration. Diapositive suivante. Ah oui, non, j'avais oublié. La particularité, c'est qu'au XIXe siècle, en pleine époque romantique, le château de Rochechinard, ça marche. C'est des ruines qui attirent. Et on a des dizaines de représentations qui sont presque toutes les mêmes. Des ruines du château qui sont généralement pas des documents utilisables pour comprendre le bâtiment, parce que dans un esprit romantique, on exagère la hauteur des ruines, la hauteur des rochers, etc. Donc vous voyez le côté courbé de la roche, le dessin qui est au centre, par exemple. Et c'est pareil avec l'histoire d'Izim, le château d'Orchinard rentre dans la légende et on le retrouve notamment dans des recueils de contes du Dauphiné comme Au pays des brûleurs de loups de Paul Béret, où vous avez en couverture d'une des éditions la tour à canon de Rochechinard. Diapositive suivante. Donc, on quitte l'histoire, on va s'intéresser au bâtiment maintenant du château et on va partir, on va faire un focus dessus. Sur l'aspect, on va dire, morphologique, la particularité du château de Rochechinard, c'est qu'il est situé sur une couche de calcaire urgonien, alors j'emploie des gros mots, mais calcaire urgonien, si vous connaissez le Royaume, vous connaissez tous les falaises de Combes-Laval, c'est de l'urgonien. Et si vous regardez la coupe qui est là, la particularité, c'est que le Royaume est un synclinal, donc une zone d'effondrement, et les couches d'urgonien, c'est la grosse couche épaisse que vous avez ici, sont sous le Royaume très profond. Alors qu'à Rochechinard, ou de l'autre côté en face du côté de Combes-Laval, elles apparaissent en hauteur. Et la particularité à Rochechinard, qui est importante, c'est que le château est sur une couche qui est quasiment relevée à la verticale. Si vous voyez le point qui est ici, les ruines des châteaux, la couche n'est pas horizontale, elle est vraiment... Et de la même manière, c'est pour ça que ça a fait un creux derrière, parce qu'il y a des couches plus tendres. Voilà. Donc là, vous avez une vue aérienne avec le château ici. Diapositive suivante. Donc on a cette fameuse échine et rocheuse et cette couche de calcaire sur laquelle est installé le château, donc qui se prolonge au-dessus et qui forme véritablement un apic très... très prononcé, puisqu'on a environ 60 mètres de vide de part et d'autre à l'endroit le plus prononcé. Diapositive suivante.